Juste après le journal. Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Jeanne Bartoli, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous. Dans ce journal, l'opposition a organisé de nouveaux rassemblements hier soir en Turquie contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. En première ligne de cette mobilisation, les étudiants. Nous sommes à Istanbul dans un instant. La politique de menace de droits de douane de Donald Trump, dernier exemple en date, le président américain promet 25% de taxes à tous les pays qui achètent du pétrole vénézuélien. En Côte d'Ivoire, le procès de l'ancienne aide de camp de Guillaume Soro s'est ouvert hier au tribunal d'Abidjan. Et puis en Allemagne, son arrestation à Berlin, où elle vivait clandestinement depuis des décennies, avait fait sensation. Un an plus tard, Daniela Klette, membre présumée de l'ex-organisation violente d'extrême gauche Fraction Armée Rouge, est jugée à partir d'aujourd'hui. En Turquie, l'arrestation et l'emprisonnement du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, continuent de mobiliser les foules au sixième jour de la contestation, largement menée par des collectifs d'étudiants. Le chef de l'opposition, Özgür Özel, a appelé hier à boycotter des marques détenues par les holdings proches du pouvoir, propriétaires de grands médias qui ont censuré ces derniers jours les images des dernières mobilisations. À Istanbul, Céline Pierre Magnani.
Erdogan, démission, c'est le slogan que répètent à l'envi des dizaines de milliers de manifestants rassemblés dans le quartier de Fatih, sur la place de la grande municipalité d'Istanbul. Özgür Özel, le chef de l'opposition, apparaît à la tribune, un rendez-vous quotidien avec la foule qui est en train de devenir un rituel depuis l'arrestation du maire d'Istanbul le 19 mars. Aujourd'hui, il a promis de lancer un boycott contre les marques impliquées dans la censure médiatique des mobilisations.
J'aime toutes les sortes de cafés, je ne saurais que vous le conseiller. Buvez le type de café que vous aimez, mais surtout, ne buvez pas le café d'espresso lave. Nous n'irons plus dans les espresso lave, nous ne boirons plus son café.
En face, le pouvoir perd patience et les méthodes de dissuasion se multiplient. Lundi 24 mars, 8 photojournalistes ont été arrêtés lors de perquisitions à leur domicile pour avoir couvert les manifestations. Céline Pierre Magnani, Istanbul, RFI.
Une nouvelle réunion entre les équipes ukrainiennes et américaines en cours à Riyad, c'est ce qu'annonce une source au sein de la délégation ukrainienne. Nous travaillons toujours avec les Américains, a indiqué cette même source. Russes et Américains ont eux échangé sur le dossier de la guerre en Ukraine hier. Discussion qualifiée ce matin d'intense et très utile. La Russie dit d'ailleurs vouloir poursuivre le dialogue avec Washington et y associer à l'avenir les Nations Unies. Le président américain Donald Trump continue sa politique d'imposition de taxes douanières comme arme diplomatique. Dernière menace en date, la menace d'imposer des droits de douane à tous les pays qui achèteraient à l'avenir du gaz ou du pétrole venant du Venezuela. À New York, le récit de Lubna Naki.
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump cible ainsi le Venezuela. Il y a quelques semaines, le président avait accusé son homologue Nicolas Maduro de ne pas vouloir coopérer pour le retour de migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis. Dans la foulée, il avait aussi mis fin à la licence permettant au géant pétrolier américain Chevron d'opérer au Venezuela. Cette fois, il essaye donc de dissuader d'autres pays de faire des affaires avec Caracas et promet que tout pays achetant du gaz ou du pétrole vénézuélien sera frappé de 25% de droits de douane sur toutes ses marchandises entrant aux États-Unis, et cela à partir du 2 avril. Une mesure nécessaire selon Donald Trump, qui accuse le Venezuela d'avoir envoyé aux États-Unis, je cite, « des dizaines de milliers de criminels, dont des meurtriers ». Il cite l'exemple du gang Tren de Agua et conclut son message par une promesse de continuer les expulsions de migrants. Cette menace, si elle est mise à exécution, pourrait toucher des pays comme la Chine, principal acheteur du pétrole vénézuélien. Son entrée en vigueur est prévue le même jour que les droits de douane réciproque que Donald Trump veut imposer aux partenaires commerciaux des États-Unis le 2 avril, baptisé par le républicain « Jour de la libération ». Loubnanaki, New York, RFI.
Donald Trump qui assure ne pas avoir été mis au courant de l'affaire aux États-Unis. Des hauts représentants de son administration ont dévoilé dans un groupe de discussion en ligne les projets militaires américains peu avant les frappes menées par les États-Unis contre les Houthis au Yémen. Sauf que dans cette discussion sur la messagerie cryptée Signal figurait un journaliste, en l'occurrence le rédacteur en chef d'un magazine The Atlantic, qui a publié un article dans lequel il raconte l'affaire tollée à Washington. Les démocrates évoquent une débâcle. L'armée israélienne revendique ce matin l'attaque qui a tué un journaliste d'Al Jazeera dans le nord de la bande de Gaza. Hossam Shabbat travaillait pour le service arabophone de diffusion en direct d'Al Jazeera. Dans un communiqué commun, l'armée israélienne et le Shin Bet affirment qu'il était un tireur d'élite du mouvement islamiste palestinien du Hamas. À l'écoute des RFI, 10 heures passées de 5 minutes en Côte d'Ivoire à présent, le procès de l'ancien aide de camp de Guillaume Soro s'est ouvert hier au tribunal d'Abidjan. Le commandant Abdoulaye Fofana et une quinzaine d'autres prévenus est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et atteinte à l'ordre public. Explication Binta Diagne.
Le commandant Abdoulaye Fofana a rejoint la rébellion en 2002. Il devient l'aide de camp de Guillaume Soro lorsque ce dernier est Premier ministre puis président de l'Assemblée nationale. En 2019, une mesure de reversement des militaires détachés auprès de Guillaume Soro est enclenchée. Abdoulaye Fofana est radié car il n'a jamais rejoint son unité, à savoir la garde présidentielle. Démarre ensuite une période d'exil. Abdoulaye Fofana s'installe en France. Au bout de quelques mois, il décide de revenir au pays. La justice l'accuse de vouloir enlever le président de la République pour renverser le gouvernement et instaurer un organe de transition. Direction d'abord le Burkina, puis Abdoulaye Fofana entre en Côte d'Ivoire par la route à Ouagadougou, où il rencontre un de ses présumés complices chargé de neutraliser mystiquement certaines personnalités politiques et administratives. Arrêté en juin 2022 par la gendarmerie, Abdoulaye Fofana rejette ces accusations. Le 14 avril prochain, à la reprise des débats, il pourra donner sa version des faits. Il est par ailleurs inculpé dans une seconde affaire qui se tient en parallèle. Ce militaire à la retraite est accusé d'actes terroristes et de complot contre l'autorité de l'État dans le cadre des violences électorales de 2020. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et l'actualité, c'est aussi les ventes de Tesla qui s'effondrent en Europe depuis le début de l'année. Moins 49% sur un an. Impossible de ne pas y voir en partie les conséquences du comportement d'Elon Musk, patron de Tesla, devenu proche collaborateur de Donald Trump. En Allemagne, Daniela Klette sur le banc des accusés à partir de ce matin à Celle, dans le centre du pays, un an tout juste après son arrestation. Cette ancienne membre de la bande à Bader, groupuscule terroriste de gauche qui avait semé la terreur outre-Rhin dans les années 70 et 80. Elle est jugée à partir d'aujourd'hui, non pas pour son appartenance au groupe, mais pour sa participation à des vols à main armée pour financer sa cavale. Nathalie Versieux.
Depuis un quart de siècle, la femme la plus recherchée d'Allemagne vivait une vie normale au centre de Berlin, dans le quartier alternatif de Kreuzberg. Appréciée de ses voisins, celle que ses amis connaissaient sous le nom de Claudia avait une vie cachée qui la faisait disparaître régulièrement pendant plusieurs semaines d'affilée. Officiellement à cause de son travail en Bavière. Mais la version est contestée par les enquêteurs, convaincus que Daniela Klette a participé avec deux complices, eux aussi en cavale depuis plus de 30 ans, à 13 vols à main armée entre 1999 et 2016. Butin de cette série d'agressions contre des transports de fonds ou des supermarchés, près de 3 millions d'euros. Chez elle, les enquêteurs ont retrouvé 230 000 euros en liquide, 1 kilo d'or, quantité d'armes, de perruques et autres déguisements utilisés pendant les braquages. Un second procès devrait se tenir d'ici 3 ans, qui portera cette fois sur l'implication supposée de Daniela Klette dans les meurtres de la bande à Bader. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Enfin, le gouvernement français veut mettre fin à la consultation publique pour les grands projets industriels. En l'occurrence, les exclure du périmètre de la Commission nationale du débat public, la CNDP. Les associations écologistes sont vent debout et les salariés de la CNDP sont appelés à la grève aujourd'hui. Écoutez Florent Guignard.
Je vais prendre un exemple très concret. On vient de finir un débat sur un projet de mine de lithium en Auvergne. C'est un projet particulièrement important, plus d'un milliard d'euros d'investissement, qui prévoit d'extraire plusieurs millions de tonnes de minerais de lithium du sol. La CNDP a organisé un débat, c'est-à-dire qu'elle a permis aux riverains, aux citoyens, aux habitants de la région d'avoir accès à une certaine information. C'est quoi ce projet? Ce serait quoi ses potentiels impacts sur le logement, l'emploi, les retombées économiques, les impacts sur l'eau, la consommation d'électricité, le transport, etc., etc. Et surtout d'avoir leur mot à dire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a accès à cette information, on peut venir en débattre, on peut venir s'exprimer. Et la CNDP s'assure que cet avis soit porté à connaissance non seulement du porteur de projet, mais également de l'État et des décideurs publics.
Florent Guignard, du suivi des débats à la CNDP au micro de Lucille Gimbert. Et tout de suite, c'est Caroline Paris.
Merci Jeanne Bartoli.